Alors, j'ai consigne pour consigne de ne rien dire. C'est très dur pour moi, donc je ne dis rien. Jacques, à toi.
Eh bien, le livre dont je vais vous parler, un recueil en fait, a été écrit par le premier baron de Tweedsmuir.
Ça commence bien.
On n'a pas souvent des barons dans l'émission quand même, il faut bien dire.
Non, des fois on a des darons, mais...
Voilà, c'est pour ça que je voulais le préciser. Et en fait, c'est un Écossais et qui est plus connu sous son vrai nom, qui s'appelle John Buchan. Alors ça vous dit peut-être
plus
rien.
Plus connu.
Mais il est encore plus connu parce que c'est l'auteur des 39 marches qui a été donc adapté par Hitchcock.
Bien que je pense que la majorité des gens ne sachent pas que ça sort d'un roman.
Sauf c'est que c'est au générique, donc il faut lire le générique jusqu'à la fin.
Bien, chef.
Ce recueil s'appelle donc « Les 39 marches et autres aventures de Richard Haney ». Car Richard Haney, qui est le héros des 39 marches, ne s'arrête pas à la fin des 39, à la 39e marche. En fait, il continue ses aventures sur une quarantaine d'années, en fait.
Et donc là, ça fait beaucoup de marches.
Beaucoup de marches. Et ce recueil, qui fait plus de 1100 pages, qui coûte 27 euros, mais enfin, ça fait quand même quelques bonnes heures de...
Combien de romans ?
De lecture. Et il y a donc 5 romans de... Donc, des aventures de Richard Haney, écrites donc par John Buchan. Déjà, lire ou relire les 39 marches, c'est intéressant pour se rendre compte à quel point l'histoire de Hitchcock est, disons, relativement éloignée de celle de John Buchan. Et on remarque que c'est un roman qui date de 1915 et que, en fait, Buchan a quasiment inventé les romans d'espionnage moderne. Dans la deuxième aventure, je ne vais pas reparler de 39 marches parce que vous connaissez quand même. Dans la deuxième aventure, qui s'appelle Le prophète au manteau vert, qui date de 1916, il a été écrit en 1916 et elle se déroule à peu près à cette époque-là. On a d'abord un long périple à travers l'Europe. Ils partent d'Angleterre, ils vont jusqu'à Constantinople en passant par la Hollande, l'Allemagne, les rives du Danube. Et ce qui est étonnant dans ce livre, c'est qu'il a une vision du monde islamique et du Proche et Moyen-Orient et des influences déjà à cette époque-là, qui est assez étonnante, surtout, qui est même d'une étonnante actualité, vu ce qui se passe en ce moment. En même temps, c'est véritablement un roman d'aventure, un petit peu comme si Jules Verne, en fait, faisait des romans d'espionnage. Un Jules Verne, certes, donc avec les évasions, les cachettes, les déguisements,
les
meurtres. Mais un Jules Verne qui serait anglais, car bien sûr, ici, John Buchan était écossais, mais... le peuple anglais est considéré comme supérieur à tous les autres. Je ne parle même pas des Arabes ou des Noirs qui sont traités comme moins que rien. Mais même les Français et les Allemands, il y a une vague tendance. Bon, les Allemands, de toute façon, comme c'est pendant la guerre, ils les appellent carrément les Boches.
C'est quand même un baron qui écrit.
Voilà, c'est un... Non, mais il a été nommé baron à la fin de sa vie, quand il est devenu gouverneur général du Canada, mesdames. Sachez ça. Bon, tout ça, évidemment, c'est à rapporter à l'époque, donc les années... 15 jusqu'aux années 30, 19 ans, du siècle dernier donc. Hein. Et aussi que le fait, l'auteur était quand même conservateur nationaliste. Mais il arrive malgré tout à nous distraire, alors malgré ou à cause, je ne sais pas, ou peut-être c'est un peu les deux, un style un petit peu suranné quand même, qui est daté. Donc avec des phrases. Mais c'est vraiment, on passe des très bons moments à lire ça, et c'est en plus passionnant. En plus, on sent que l'auteur est de plus en plus à l'aise avec l'écriture, car les 39 pages, à peine 150 pages, 130 pages. Le deuxième roman, il en fait 250, et le troisième, 300. Il dépasse les 300.
Et à la fin, on fait du thriller américain, non ?
Non, pas vraiment, ça s'arrête là. Et dans les deux derniers aventures, en fait, se passent bien après la guerre, quand Richard Haney est vieillissant. Il est marié, il a un fils, et comme ça. Donc il ne reste pas toujours le jeune héros qu'il est dans...
Les 39 marches.
Qu'il est dans les 39 marches. Et même le dernier, dans les trois otages, donc qui est le précédent, il y a un truc qui est assez amusant, c'est que le personnage, un des personnages qui converse avec Richard Haney, démonte le mécanisme des romans policiers. C'est assez drôle quand c'est dans un roman policier lui-même, en expliquant en fait, ouais, c'est vachement facile de faire un roman policier, parce qu'en fait, l'auteur, lui, il écrit par induction, alors que le lecteur, lui, il lit par déduction. D'où, évidemment, l'apparent talent de l'auteur, alors qu'en fait, il ne fait que manipuler le lecteur.
Mais oui, c'est un grand débat sur ces romans à énigmes et ces romans policiers.
Laquelle méthode d'induction était recommandée par un contemporain, non, peut-être même, il est plus ancien, parce que c'est... un des papas du roman policier en général, qui est Émile Gaboriau. C'était la méthode d'induction, c'est la méthode de Lecoq. Donc voilà, le héros de Émile Gaboriau. Donc je vous rappelle, John Buchan, Les 39 marches et autres aventures de Richard Haney, dans la collection Omnibus, pour 27 euros et 1184 pages.
Ai-je le droit de faire deux remarques ?
Tout à fait.
Premièrement, entre 1915 et 1930, il ne peut s'écouler 19 ans, comme tu l'as dit dans ta chronique. Oui. Donc il va falloir revoir les méthodes de calcul.
Oui.
Et deuxièmement...
C'est la retenue.
Si les 39 marches sont une adaptation du roman très très lointaine par Hitchcock, il y a une excellente adaptation à la BBC.
Tout à fait, qui est beaucoup plus... une adaptation de 2008, je crois, qui est vraiment beaucoup plus proche de l'histoire réelle de John Buchan.
Allez, on enchaîne.
Tout de suite sur
tout
la chronique.
Tout de suite
donc,
sur la chronique,
cher.
Lire pas cher, avec un de mes coups de cœur. Un coup de cœur de 2007, ça commence à faire. Ça s'appelait, et ça s'appelle toujours, Un hiver de glace. C'est un livre de Daniel Woodrell, à mon avis, un des meilleurs auteurs de romans noirs américains. Et dans ce livre, on découvre Ri. Alors, comme tu as des problèmes avec Haney, mais j'ai des problèmes pour prononcer. C'est une jeune femme qui s'appelle Ray. C'est l'aînée d'une famille dont le père trafiquant de coke vient de disparaître. Enfin, il faisait des cristaux de meth plutôt que de coke, mais bon. La vie n'était déjà pas très drôle, mais là, elle est carrément insupportable pour la famille parce qu'ils n'ont déjà pas grand-chose et ils risquent de perdre leur maison. Même si c'est une ruine, c'est quand même leur foyer. Et donc, cette jeune femme va partir à la recherche de son paternel en plein cœur de l'hiver dans la région. Et dans cette région, l'hiver, il est rude. La région, elle est sauvage, mais à mon avis, moins que les hommes. Je n'ose dire les êtres humains qu'elle va croiser. Un roman noir, livre d'initiation. Et on est happé dès les premières pages par le destin de cette jeune femme. C'était sorti en rivage thriller, ça vient de ressortir en rivage noir. Et bah, aujourd'hui, on est le 2 mars, aujourd'hui sort un film dont c'est l'adaptation. Donc ce film s'appelle Winter's Bone.
Qui est le titre original du livre en anglais.
Tout à fait,
anglais,
et j'espère qu'on pourra vous en parler un petit peu dans 15 jours. On reste dans la même collection, mais on est dans un tout autre genre, même si la nature est cruelle. C'est chez Pascal Dessin, et le livre s'appelle justement Cruelle Nature. C'est toujours en rivage noir. Ici, on a un personnage, Antoine, qui est, donc on est en France, là, on est revenu en France, il est sur les routes, les petites routes de la Brenne. Allez chercher, comme moi, dans votre atlas favori, je ne savais pas trop où était la Brenne quand j'ai lu le roman. Et il comptabilise les dégâts du soi-disant progrès sur la biodiversité dans cette région. Il partage sa vie avec Myriam, mais il n'a plus grand-chose à se dire. Dans cette région, en même temps, leur destin va croiser ceux de 3 jeunes du Nord, plus ou moins de Dunkerque, Morissette, Thierry et Régis. Et en gros, les natures des humains peuvent être aussi cruelles, très cruelles. C'est vraiment un roman à découvrir pour l'atmosphère très particulière qu'arrive à installer Pascal Dessin dans ce roman, comme dans ses autres romans. Une ambiance lourde, une ambiance poisseuse, mais avec quand même une très belle lumière. On finit par un des auteurs les plus prolixes de Rivage, c'est Elmore Leonard, non pas avec une, mais comme toujours d'ailleurs avec 2 rééditions. Elmore Leonard, on sait qu'il fait dans tous les genres, il navigue entre le western et le polar la plupart du temps. Donc 2 romans, un qui s'appelle Mister Paradise, polar plutôt classique, si ce n'est la patte du maître. Le maître, évidemment, je parle d'Elmore Leonard. Quand on a Mister Paradisio, il y a une petite majorette qui vient le divertir. Oui, monsieur Paradise, il est un petit peu, il aime bien quelques divertissements de jeunes tendrons. Et lui et cette jeune majorette sont assassinés. Et je vous laisse découvrir donc l'enquête de l'inspecteur d'Elsa. Comme d'habitude avec Elmore Leonard, ça fourmille de rebondissements et ça avance à un rythme d'enfer. Il y a les bons, les méchants, des dialogues percutants. Bref, vous installez confortablement dans un fauteuil et vous profitez du moment. La deuxième réédition, La guerre du whisky. On est en pleine prohibition. Et en gros, pour pas trop dévoiler, c'est une recherche au trésor très particulière. Car un fils qu'on peut dire un fils prodigue, revenu dans sa cambrouse après le décès de son père, lui, il est carrément à la recherche des 150 fûts de whisky, j'ai pas dit 150 bouteilles, j'ai bien dit 150 fûts de whisky qui seraient dissimulés dans la propriété. Évidemment, le fils le recherche, mais les recherches...
Mais il n'est pas tout seul.
Il n'est pas tout seul. Tous les bootleggers du coin le suivent ou le précèdent. Encore un livre à 200 à l'heure. Et ça aussi, ça a été une adaptation, ça a été une adaptation cinématographique. Ça s'appelait The Moonshine Noir. C'était avec Richard Widmark et Patrick McGowan. Ouais. Alors, Patrick McGowan, ça te dit quelque chose, Jacques ?
Oui.
Bon, merci. On passe à autre chose. Eh bien, peut-être que si tu ne veux pas dire... Bon, Patrick McGowan, c'est le prisonnier. Allez, on répond quand même. Donc, si tu ne veux pas répondre à mes questions, peut-être pourrais-tu nous parler du morceau de musique qui arrive ?
Oui, c'est un morceau de musique de Cowboy Junkies. Le morceau s'appelle Ladle. Et c'est nouveau, un disque qui vient de sortir ces jours-ci dans les bacs. Les Cowboy Junkies ont fait un disque entièrement composé de morceaux de Vic Chestnut, avec qui il devait faire une tournée nationale. Et qui malheureusement s'est avéré que Vic Chestnut est mort. Donc, ils ont fait un disque en hommage à ce chanteur canadien aussi, Ladle. On interrompt ce morceau parce qu'on a plein de livres à vous conseiller, donc, mais quand même aller écouter Cowboy Junkies dans ce dernier album, c'est fabuleux. On passe à une autre collection hautement recommandable dans le genre roman poche, c'est Poinceuil, toujours dans la même gamme de prix, entre 6 et 10 euros. Jacques, un petit mot sur un tailleur bien gris. Le tailleur gris, oui, donc de Andrea Camilleri. Donc là, il a mis un peu, pour ce roman, il a mis un peu de côté son héros Montalbano, pour nous raconter une histoire grise, en fait, comme le tailleur de l'héroïne ou comme le costume de son mari. Lequel mari, en fait, est un directeur de banque. J'ose dire, il tombe à la retraite et il tombe malade et il découvre que sa femme, sa seconde et très jeune femme, assouvit son appétit sexuel avec d'autres que lui. Un roman doux, amer, où on peut dire que l'écriture sublime le désespoir.
Et là, on n'est pas dans la série des Montalbano, comme les autres Camilleri dont on parle souvent. Autre point seuil, 13 heures, c'est le nom du roman, et c'est de Deon Meyer. Alors Deon Meyer, on en parle régulièrement, c'est un écrivain sud-africain qui nous fait découvrir au fur et à mesure l'après-apartheid à travers des histoires plus ou moins noires, plus ou moins polars. Deux ont fait leur chemin, en particulier L'âme du chasseur, ou bien encore Jusqu'au dernier. Et dans ce dernier, un flic aura en gros 13 heures pour retrouver les ravisseurs d'une touriste américaine, ainsi que le véritable assassin d'un producteur de musique, Adam Bernard. C'est très efficace. Ça va évidemment à un rythme d'enfer, ça se passe en 13 heures, hein, et le bouquin est assez gros. Ça, en gros, ça suit un peu la série 24 heures chrono, avec chaque chapitre étant 1h, 5h47, 5h50. En gros, c'est un bon roman, je regrette seulement que le portrait de l'Afrique du Sud disparaisse un peu pour les besoins d'un thriller, d'un page-turner, comme on dit, mais c'est quand même vachement bien foutu. Autre roman plus que bien foutu, Jacques, une réédition d'un des grands romans de Manuel Vázquez Montalbán.
Oui, donc les Mers du Sud, donc, qui sont plus fameux, le meilleur selon nous des enquêtes de Pepe Carvalho, donc le héros de Montalbán. Cette fois-ci, il enquête sur le meurtre de Stuart Pedrel, qui est un richissime directeur d'entreprise, qui a disparu depuis un an sans laisser de traces. Il voulait partir pour ses mers du Sud. Les mers du Sud. Ces mers du Sud qui sont bien sûr celles où l'on ne va jamais, que l'on n'atteint pas. Une fois de plus, on a la vision désabusée de Montalbán ou est de Carvalho sur l'Espagne qui se reconstruit, sur la misère humaine et finalement sur une certaine vacuité de la vie.
Eh bien, c'est gay les livres dont tu nous parles ce soir. Ceci dit, c'est une émission sur le roman noir, ça n'a pas non plus à être gay. Eh bien, on va finir par, dans cette collection, tout au moins, par un très, très beau roman de Leonardo Padura. J'ai hésité parce que j'ai très, très beau, puis j'allais lire le titre, très, très beau, Brume du passé, ça n'allait pas. Donc, toujours chez Poinceuil, on vous a parlé de ce romancier très récemment, avec son dernier roman, L'homme qui aimait les chiens, hein, c'est chez Métayer. Dans cette réédition, on retrouve là le personnage récurrent de Padura, Mario Conde, dans une espèce de mystérieuse quête dans le passé, sur les traces d'une chanteuse, Violeta del Rio. Roman noir, on découvre le Cuba d'hier, le Cuba d'aujourd'hui, un roman d'amour, aussi le roman d'un érudit qui nous offre sa passion pour la littérature. Puisque le déclencheur et un des lieux du roman, c'est une bibliothèque absolument fantastique, composée de nombreux d'incunables et de beaux livres. Il faut absolument découvrir cette odeur cubain, au style remarquable. Donc là, ça vient de paraître chez Poinceuil, ça s'appelle « Les brumes du passé ». Allez, on arrive chez Folio Policier avec un roman des plus déjantés. Ça s'appelle « Chasseur de tête » et c'est de Joe Nesbø. Alors Joe Nesbø, on vous en a parlé la semaine dernière, dans sa veine pas du tout déjantée mais très sombre avec le léopard. Là, hors série, en gros, un chasseur de tête un peu particulier qui sélectionne les futurs cadres supérieurs en fonction des œuvres d'art qu'il peut dérober sans risque. C'est tranquille, il leur donne un rendez-vous pour l'entretien d'embauche et pendant l'entretien, il va les cambrioler. Mais il va tomber sur plus fort que lui. En gros, tel est prix qu'il croyait prendre. Et si la lutte entre les deux escrocs est féroce et violente, on s'amuse énormément, mais vraiment à gorge déployée, de scènes gore que Nesbø tourne constamment en dérision. Vraiment, ça n'a pas manqué, ça s'appelle « Chasseur de tête » et c'est de Joe Nesbø. Jacques, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur « Aurore boréale » d'Asa Larsson?
Oui, toujours chez Folio Policier, Asa Larsson qui n'est pas du tout la femme, ni la maîtresse, ni la cousine, ni la sœur de Stieg Larsson.
Il y a plein de Larsson.
Voilà, c'est une Suédoise quand même. Et c'est une femme, et son enquêtrice en est une aussi. Elle est avocat fiscaliste, donc pas fliquette. Et elle va être mêlée à une histoire de secte dans le nord de la Suède. Alors, ça va être assez sombre, bien, malgré la neige, le sang dans la neige, comme ça. Comme elle est enceinte, et dans la neige, on pense beaucoup au Fargo des frères Coen. Mais il y a quand même une grande différence entre le Dakota du Nord et la Laponie suédoise.
Oui, si on rate l'avion, si on se trompe d'avion, on s'en aperçoit
pas vite
quand même. Hein. Voilà. Donc, ça s'appelle Aurore boréale, joli jeu de mots, Asa Larsson, toujours chez Folio Policier. Dans Au livre de poche, une de nos grandes découvertes et grands enthousiasmes en 2009, Ron Rash avec Un pied au paradis. Un pied au paradis, c'est le nom du roman.
Voilà, Ron Rash, donc, c'est le nom de l'auteur. Alors, c'est un roman polyphonique, comme on dit désormais, où, en fait, il y a la disparition le meurtre de Holland Winchester, déjà, un nom pareil, ça ne s'invente pas, qui est un des gars du village, un vétéran beau gosse, mais en fait, un sale type. Et cette disparition, ce meurtre, va être raconté tour à tour par le mari, la femme, le flic et le fils. Et ce qui va nous permettre de découvrir à la fois toute l'histoire et en même temps, surtout, toute la façon dont on vit là-bas. On est dans les États-Unis de la Terre, où le rêve américain est caduc. Il n'est plus question que de survie. Le poids de la religion est
énorme.
Et en fait, un pied au paradis, c'est surtout, quand on a un pied au paradis, c'est surtout qu'on a l'autre en enfer. Et en fait, l'enfer, là, c'est l'enfer du quotidien.
Voilà. Puisqu'on parle de romans de poche, je voudrais simplement faire une petite annonce. Au mois de mars et au mois d'avril, si vous achetez deux romans de Rivage Noir, chez Rivage Noir, ben vous avez droit à un petit livre comprenant deux nouvelles inédites de Donald Westlake, un des plus grands romanciers de la collection Rivage, et c'est suivi d'un catalogue raisonné des grands auteurs de Rivage Noir. Ça s'appelle « La fille de mes rêves » et malheureusement, on ne peut plus vous parler des romans, mais allez voir sur notre site, Ondes Noires, vous trouverez plein de références. Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.